Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce troisième dimanche de l'Avent, qui est tourné vers des accents de joie, gaudete, les ornements roses suppléent aux ornements violets pour montrer que nous sommes dans une pénitence comme atténuée par la proximité du mystère de Noël qui approche à grande vitesse, si bien que cette joie nous fait rêver. Et ce matin, je voulais vous raconter peut-être un rêve qui concerne Saint Joseph et la Vierge Marie, un peu comme un conte, si vous voulez. Je prendrai la Vierge Marie qui est depuis déjà quelques mois chez sa cousine Élisabeth. Saint Jean-Baptiste vient de naître. La Vierge Marie aide sa cousine à lui donner les premiers soins. Il y a une grande beauté dans cette maison, une grande amitié entre ces deux cousines. Il y a beaucoup de joie, et pourtant commence une première passion pour la Vierge Marie et pour Saint Joseph. Alors vous me direz, mais la passion, ça ne fait pas rêver. Et vous nous parlez d'un rêve. Mais l'important n'est pas de bien commencer, l'important est de bien terminer. Et d'ailleurs, notre propre vie en est un exemple. Nous naissons tous avec le péché originel, c'est-à-dire avec la condamnation. Et pourtant, nous sommes tous invités à nous épanouir dans la béatitude éternelle. Et donc nous sommes faits pour le bien suprême, nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour le ciel. Et donc si nous coopérons à la grâce de notre baptême qui nous restaure à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien nous finirons bien. Alors j'espère que ce rêve se finira bien aussi. Mais revenons dans cette maison où Élisabeth est avec la Vierge Marie. Il y a beaucoup de joie à s'occuper de ce petit bambin qui vient de naître et qui aura une grande mission, lui qui sera le précurseur de notre Seigneur. Mais la Vierge Marie montre à Sainte Élisabeth des signes d'inquiétude. Elle souffre et elle s'en ouvre à sa cousine. Elle souffre parce qu'elle a conscience qu'elle attend le Dieu vivant. Et elle connaît par cœur l'Ancien Testament. Elle connaît les prophéties d'Isaïe. Et elle est inquiète de voir ce qu'on va faire à son fils. Elle en a un petit peu peur. Et on imagine très bien sa cousine Élisabeth trouver les mots d'apaisement pour son âme, car les prophéties aussi disent comment notre Seigneur termine, dans la gloire. Et puis le temps vient où Joseph arrive pour récupérer Marie. Il arrive dans la maison un soir, dans la pénombre, si bien qu'il ne remarque pas trop les rondeurs que Marie cache avec un châle sur son ventre. Joseph lui explique tout ce qu'il a fait. « Marie, tu seras heureuse quand tu rentreras à la maison parce que tu verras que la maison est propre. Tu verras que je me suis bien occupé du jardin. Toutes les fleurs sont magnifiques. Tous les arbres portent des fruits incroyable comme jamais il n'y en a eu. Tu verras ce beau olivier avec tous ses boutons qui annonce une belle récolte. Tout est beau et dans le pays, on dit même que les arbres n'ont jamais autant porté de fruits. Ils auraient pu attendre le lendemain pour voyager deux jours, mais c'était mieux, plus confortable pour eux à cause des rencontres de voyager dans la pénombre. Alors, la Vierge Marie monte sur l'âne et Saint Joseph l'observe, la regarde. Et là, dans son cœur, il se passe quelque chose parce qu'il comprend qu'il y a un problème. Il remarque que Marie est enceinte. Mais il ne dit rien. Le voyage se passe et Saint Joseph est toujours aussi délicat avec Marie. Ils arrivent et Marie est tout émerveillée de voir sa maison et son jardin parfaitement entretenu. Et Saint Joseph continue à visiter Marie jour après jour. Et il est toujours aussi prévenant, mais intérieurement il souffre. Il souffre parce qu'il voit Marie enceinte et qu'il n'a pas une explication rationnelle à donner à cela. Et il attend un signe de Dieu, un signe du ciel, pour lui donner une explication. Et Marie, elle, ne lui dit rien parce qu'elle a reçu l'ordre du ciel de se taire, de ne rien dire à Joseph. C'est le ciel qui est venu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. C'est aussi le ciel qui doit venir à Saint Joseph pour lui dire qu'il serait le père du Sauveur, le père nourricier. Alors Marie souffre de voir son mari ainsi, parce qu'elle comprend que si Joseph garde par sa sainteté une charité parfaite, il n'est pas plus aimable qu'avant. Et elle sait très bien que si Joseph savait qu'elle attendait le Fils de Dieu, Saint Joseph serait encore beaucoup plus prévenant, encore beaucoup plus amoureux. Et elle souffre de cela. Et puis vient ce songe où l'ange dit à Joseph, mais ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse, ne crains pas, parce que cet enfant qu'elle attend, elle l'attend par l'opération du Saint-Esprit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et là, tout s'éclaire pour Saint Joseph. Et quand il revient vers Marie, eh bien, il est, je dirais, tout ému, tout gauche, parce qu'il contemple en Marie cet enfant Dieu qui est dans le ventre de Marie. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de beauté dans la relation entre Saint Joseph et la bienheureuse Vierge Marie. On est dans quelque chose de beau. On est dans une grande joie. Si bien que Saint Joseph se précipite pour préparer le mariage et puis tout faire pour que la naissance se passe bien. Il y a un détail que je voudrais souligner dans ce rêve, qui est bien une réalité. C'est la sainteté et la charité de Saint Joseph. Vous remarquez que Saint Joseph, s'il avait une réaction purement humaine, qu'aurait-il fait? Et la Vierge Marie en a conscience, si bien qu'elle admire encore davantage Joseph. C'est que Joseph aurait très bien pu, dans un raisonnement purement humain, dénoncer Marie. Il s'en serait suivi que Marie aurait été lapidée. Marie portant son enfant, s'en eût fini de la promesse, s'en eût fini de la rédemption nous aurions été condamnés pour l'éternité. Nous avons été sauvés par la sainteté et par la grande charité de Saint Joseph, qui pourrait être appelé, n'est pas un dogme, qui pourrait être appelé co-rédempteur, comme Marie est la co-rédemptrice, parce qu'il nous a sauvés de la rédemption par sa sainteté, et il nous apprend à nous aussi à avoir un œil surnaturel sur les événements de la vie, avoir un comportement surnaturel sur les événements de la vie comme sur notre prochain. Et si nous allons un petit peu plus loin, en dépassant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'anticipant, eh bien nous voyons que Saint Joseph, encore une fois, nous sauve de la rédemption. Il nous sauve. Une deuxième fois, quand l'ange lui dit « Quitte Bethléem à cause d'Hérode qui veut tuer Jésus. » Et de suite, il quitte Bethléem. Et en quittant Bethléem, eh bien, Jésus est sauvé et Jésus va pouvoir donner sa vie pour notre rédemption. Il nous sauve une deuxième fois. Grand est Saint Joseph. Imitons sa sagesse, imitons sa sainteté, imitons sa grande charité. Et voyez-vous, c'est une belle leçon pour nous. On vit dans un monde un peu triste aujourd'hui. Alors on a besoin de faire ressortir ces belles qualités de Saint Joseph pour nous dire bien qu'il a quelque chose à nous dire, quelque chose qui permet de faire de grandes actions, de faire de belles choses. Si Saint Joseph n'avait pas été saint, si Saint Joseph n'avait pas excellé dans la charité, notre Seigneur ne serait pas né. On n'aurait pas eu la rédemption. Voyez-vous, je veux en venir. Dans une société aujourd'hui où on avorte, où on tue nos enfants, combien de belles choses, de belles réalisations ne verront jamais le jour parce qu'à un moment, on a posé sur telle ou telle situation un raisonnement purement humain. Il faut donc apprendre avoir une vision, un œil surnaturel sur notre prochain et sur les situations. Parce que sans cette dimension surnaturelle, nous ne pouvons pas faire confiance à la bonté et à la grandeur de Dieu sur nous. Alors, dans ce temps qui nous sépare de Noël, je souhaite que nous puissions, moi le premier, grandir dans la charité, en apprenant à voir l'autre, en apprenant à voir les situations qui peuvent nous environner avec cette dimension surnaturelle. Et croyez-moi, on n'a pas forcément toutes les réponses immédiatement. Mais l'histoire nous montre qu'alors de grandes choses peuvent se faire. Et notre monde a besoin de ces grandes choses. Il a besoin de retrouver l'ordre de Dieu dans sa société, afin que l'espérance puisse toujours triompher de tout. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.